écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, on vous emmène à Montréal pour le Festival international de jazz. Cette 43e édition du Festival international de jazz de Montréal qui s'est déroulée du 28 juin au 8 juillet 2023, l'équipe du festival avait programmé quelques têtes d'affiches alléchantes telles que Herbie Hancock, Thundercat, Robert Plant, Diana Krall, DJ Premier, Snarky Puppy, The Brooks, Coco Rocco, Buddy Guy, John Scofield, Rodrigo et Gabriella, mais aussi des artistes moins connus et pas mal d'artistes québécois. Je m'y suis donc rendu dans le but de vous concocter une émission avec quelques invités et beaucoup de concerts. Il en résulte 3 épisodes d'une heure dans lesquels vous allez pouvoir écouter Domi and JD Beck, Bad Bad Not Good, Sungazer, Phelp, Ping Pong Go, Jesse McCormack. Et pour commencer ce premier épisode, voici The Budos Band, un groupe new-yorkais qui s'est produit au Club Soda, un club plein à craquer d'un public qui n'était pas venu pour faire figuration.
Montreal! We are the Budos Band. We are from Staten Island, New York. We are so pleased and happy to be here tonight with you fine, beautiful, wonderful people of Montreal. I'm going to ask you one question. Are you excited to party with the Budos Band? Are you excited to party with the Budos Band? We'll be right back.
Le Festival international de jazz de Montréal se déroule juste après les Francofolies de Montréal. Tout se passe au cœur de la ville, dans le quartier des spectacles, à la fois en plein air et en salle. J'ai pu échanger quelques mots avec Morin Auxemery, directeur de la programmation, pour dresser un petit bilan de ces deux festivals. Les Franco, le jazz, c'est deux énormes festivals ici à Montréal. En tout, ça fait pas loin d'un mois de festivals qui s'enchaînent. Combien de groupes sur ces deux festivals à programmer ? C'est un taf énorme, non ?
Ben, on s'approche de 600 groupes.
600 groupes ?
Ouais.
C'est énorme.
600 concerts. Il y a des groupes qui vont jouer deux, trois fois sur un festival. C'est ça. C'est quand même 600 représentations avec presque autant de groupes.
Je pense qu'on peut commencer à dresser un bilan du jazz. Bon, les Franco, c'est fini depuis un moment, mais on va déjà parler du jazz, puisque le dernier jour, c'est demain.
Tout à fait.
Moi, je t'avoue que j'ai été énormément surpris par la fréquentation de la main stage sur des groupes comme Domi & JD Beck et Thundercat. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde.
Ah ouais, hein.
Je trouve que c'est vraiment un gros coup. Bravo, j'imagine que c'est toute la team, mais vous féliciter pour ces choix-là, parce que quand je venais il y a quelques années, j'ai l'impression que la main stage c'était des trucs un peu plus grand public. C'est arrivé qu'il y ait Cœur de Pirate pendant le jazz, par exemple, ici, ou ce genre de choses. Là, les choix étaient beaucoup plus prononcés, je trouve. T'étais sûr de toi ?
Non, mais oui, on était sûr de nous, en fait, complètement. Surtout sur Thundercat, sur Domi et JD Beck, c'était plus un pari, puis comme une forme de statement un peu de « Ok, c'est la nouvelle génération ». Ils sont en train de tout défoncer partout. On s'est dit, bah, on va leur faire la place. On les met là, il nous restait un petit trou. Ils faisaient déjà la première partie de Herbie Hancock la veille. On s'est dit, on y va. On a essayé des petites bêtises, à envoyer une offre à Anderson .Paak sur son DJ set qui s'appelle Pee-wee, DJ Pee-wee. On avait Thundercat qui était là le lendemain, donc on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de... En fait, l'idée, c'était un peu de recréer l'album de Domi et JD Beck. Il n'y a rien qui a fonctionné, puis ça arrive, ça fait partie des aléas des programmations. Mais malgré tout, super content d'avoir eu Domi et JD Beck sur cette scène-là. La façon dont on procède avec cette scène-là, c'est... Pour les gens qui ne savent pas, le Festival de Jazz, c'est un mélange de concerts intérieurs et extérieur. Les concerts intérieurs généralement sont payants avec des billets qu'on achète individuellement et les concerts extérieurs sont des concerts ouverts à tous. Tu as remarqué toi-même là, il n'y a pas de porte là.
C'est vrai.
Il n'y a pas de porte. Tu rentres sur le site puis c'est réglé, il y a une espèce de fouille sommaire mais on ne demande rien à personne. Donc voilà, les gens débarquent et généralement ce qu'on fait c'est on crée un espèce de mélange entre des groupes qui sont connus, voire très connus, et des groupes qui le sont moins, qu'on met sur des soirs un petit peu particuliers, spéciaux, pour leur faire découvrir un nouveau public, en fait. Typiquement, premier samedi soir du festival, donc enfin le samedi dernier, on a mis un groupe qui s'appelle Sima Funk. Il doit y avoir 1000 personnes à Montréal qui connaissent Sima Funk. On aurait vendu 250 billets probablement dans n'importe quelle salle. Mais on savait que c'était une machine de guerre. On savait que ça allait être une teuf monstrueuse. Donc on s'est dit, on le met le samedi soir. De toute façon, notre public est présent. Quoi qu'il arrive, c'est le week-end. Donc cadeau Sima Funk joue devant des dizaines de milliers de personnes. Et puis on l'a vu, hein, les retours ont été absolument incroyables. Donc je pense qu'on a, je dis pas qu'on crée des stars comme ça, mais on fait des beaux démarrages de carrière sur des opérations comme ça. Donc ça, c'est un exemple avec Sima Funk. Mais on avait Ibrahim Malouf le premier soir, en gratuit. Thundercat, on savait que ça allait être une de nos plus grosses affluences. Même si c'est une musique un peu nichée, un peu spéciale, très geek. C'est quand même un gars qui a une énorme notoriété. Il nous a même fait le plaisir de finir à notre jam qui s'appelle The Shed, qui jouait pendant trois soirs. Il a débarqué à 2h dans une salle, une toute petite salle en haut du club, le MTLUS. Et il a joué devant 150 personnes, avec Louis Cole qui est monté sur scène aussi avec lui, puis un peu de monde de son team. Là. C'était malade. Moment privilégié. Fallait y être.
Alors, chers auditeurs, je ne vais pas vous mentir, cet after avec Thundercat devant 150 personnes, je n'y étais pas. En revanche, j'ai pu assister au concert complètement fou de Domi et JD Beck, les jeunes prodiges que tout le monde s'arrache depuis 2 ans alors qu'ils sont à peine majeurs. Si vous ne les connaissez pas, c'est un duo composé de Domi Luna au clavier et JD Beck à la batterie. Sur leur album sorti en juillet 2022, on retrouve des artistes comme Thundercat, Mac DeMarco, Herbie Hancock, Anderson .Paak, Snoop Dogg, Busta Rhymes et Kurt Rosenwinkel. Et quand on les regarde jouer, on a l'impression qu'ils ont un cerveau dans chaque main tellement ils sont impressionnants de technique et d'aisance devant leurs instruments respectifs. Mais plutôt que de continuer à en parler, voici un extrait de leur concert donné lors de cette 43e édition du Festival International de Jazz de Montréal.
What up? This is yeah, this is fucking insane. What's up? That's Domi. I'm JD Beck. Yeah, thanks. Last time we played here was like Club Soda or something. That was a little bit less than this. So cool. All right, this is a medley. Thank you.
Thank you. What the fuck's up? This is incredible. Thank you for being here. Yeah, we're just gonna play some music. En français, s'il vous plaît. Merci. On vient de me dire, attendez, c'est international ce soir, parlez en anglais, donc je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la fête du slip. Ok, on va continuer de jouer, hein. Ça suffit maintenant.
Yeah, one more instrumental and then we'll sing.
Le Festival international de jazz de Montréal fait la part belle aux artistes québécois et parmi eux, voici Ping Pong Go, un autre duo composé de P.E. Baudouin à la batterie et Vincent Gagnon au clavier. Avant qu'on les écoute avec un extrait de leur concert, j'ai pu m'entretenir avec eux et je leur ai demandé de revenir sur l'origine de la recette Ping Pong Go.
2020.
Non, ça a commencé mars 2020, c'est ça. Ça faisait au moins 2 ans où j'avais lancé cette idée-là. Il faudrait qu'on fasse un album instrumental ensemble. Parce que moi, je faisais des... Dans le passé, maintenant, on accompagne beaucoup des artistes plus pop ou pop alternative. Ariane Roy,
Hubert Lenoir,
Louis-Adrien Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Gabriel Schunk, tout ce réseau-là. Mais avant, moi, j'ai joué plusieurs fois au Festival de jazz ici avec mes projets de jazz personnel. Puis PE aussi, il jouait avec...
Jazz Culture Club, j'avais un groupe à l'époque.
C'est ça, fait que on avait ce bagage-là, puis ça faisait un bout qu'on disait, ah bon, il faudrait qu'on fasse un projet instrumental maintenant avec le bagage différent qu'on a. Puis ben là, ben, on a été 2 semaines tout seul dans une maison. Fait que,
à improviser, puis c'est né, on n'avait aucune idée du style, on n'avait aucune idée d'où que ça s'en allait, mais finalement, de fil en aiguille, ça a donné un son, puis l'album est assez hétéroclite, mais c'est un peu pour ça, parce qu'on improvisait tellement de choses que... Les chansons, dès qu'on avait une idée, on allait au fond dans l'idée, puis ça donnait une chanson. Alors, l'album est devenu assez hétéroclite grâce à ça, puis en tout cas, c'était au moment présent.
Alors, à l'origine, Ping Pong Go, c'est vous deux en duo batterie clavier, mais maintenant vous êtes 4 sur scène. Présentez-nous les autres membres.
Ben, à la basse, on a Cédric Martel, qui est un fier compatriote depuis plusieurs années. Et Lisande Ménard au clavier aussi.
Ouais, ça amène des horizons vraiment différents parce que Cédric, lui, fait beaucoup dans les projets de composition.
Populaire rock.
Pop, alternative, rock. Lisande, c'est une pianiste classique qui est aussi auteur, compositrice, interprète et comédienne. Elle joue dans des films. Puis moi, j'ai le background plus jazz, PE aussi, donc ça fait tout un mélange d'univers vraiment différent.
Alors, en parlant d'univers, justement, j'ai écouté votre album, j'ai regardé les crédits, et quand je vois le nombre de claviers vintage que tu utilises sur cet album, c'est impressionnant. J'ai pas compté, il doit y en avoir une bonne vingtaine.
Ah, facilement.
Ce qui est drôle, là, c'est qu'on va le dire, on l'a jamais dit en entrevue, ça, mais sur la pochette de l'album... Si vous regardez, c'est tous les claviers qui ont été utilisés sur l'album. C'est parce qu'on les a pris en photo.
C'est vrai.
Ça fait des buildings. C'est ça qui fait les buildings de la ville. Et nous qui volent par-dessus tous nos claviers.
Ouais.
Il y a même une cymbale qui fait la lune.
Donc Vincent, toi tu es fétichiste des claviers vintage, si j'ai bien compris.
Oui, mais c'est nouveau parce que avant je faisais exclusivement du jazz, puis je faisais pratiquement exclusivement du piano acoustique. Puis, avec les années, dans les 10 dernières années, je me suis mis à mettre à accumuler des synthétiseurs, surtout des synthétiseurs vintage qui n'ont pas beaucoup de possibilités, mais qui ont un caractère. Donc, j'aime ça choisir entre mes claviers, puis ou dire, cette chanson-là, je la travaille sur un clavier avec ses limites, avec sa couleur. Puis, c'est ça qui m'aide à donner la direction pour la composition, les limites puis les caractères des claviers que je choisis.
En gros, tu aimes bien travailler avec une contrainte.
Oui, parce que j'ai de la misère à prendre des décisions. Prendre des décisions, pour moi, c'est difficile.
Quand il y a trop de possibilités, ça devient difficile. Puis surtout, nous, on est deux musiciens très, très, très occupés avec plein de projets. Il fallait prendre des décisions rapides. Cet album-là, c'est fait. OK, on tranche rapidement, on prend un clavier, on y donne de l'amour, puis après ça, on passe à un autre. C'était clairement ça.
Alors, le choix restreint d'instruments et les sons particuliers que vous utilisez, tout ça, ça donne une atmosphère très cinématographique et jeu vidéo, même presque à votre musique. Hein, on a l'impression d'être dans les films de course-poursuite ou dans les jeux un peu du même genre. Vous vouliez aller vers cet univers-là?
C'est vraiment ça qui est arrivé.
C'était un peu un hasard, pour vrai, là.
Ouais. Puis, tu sais, aussi le fait que ça ressemble un peu à de la musique de jeux vidéo, mais on joue pas à des jeux vidéo, on n'est pas des gamers. Mais c'est... On s'est mis à travailler, puis ça... Quoi?
Bien, il y a une chose qui était vraiment importante pour nous, c'est d'avoir des mélodies accrocheuses. Ça, c'était important parce que, tu sais, on aurait pu faire de l'ambiance avec des claviers, puis garder le noise. Mais nous, c'était vraiment, on voulait faire des pièces avec des mélodies accrocheuses. C'est peut-être pour ça qu'on peut entendre, exemple, K2000, ou tu sais, des émissions des années 70 qu'eux autres, il y avait vraiment des thèmes accrocheurs là, quand l'émission partait. Là, c'était...
Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que dans les vieux films, tu fais plus souvent des musiques avec des thèmes. Vraiment
des claires.
Thèmes et mélodies.
Les ambiances à la John Carpenter.
C'est en plein ça.
Ouais. Alors, exactement. Puis maintenant, ben, tu as beaucoup de films où la musique a une fonction différente, a vraiment une fonction
d'appui.
Texture, appui, générer des émotions. Mais il y a beaucoup de films qui n'ont pas de thème. Tu n'as plus des thèmes comme le thème de Rocky, mettons, ou des trucs comme ça. Puis nous autres, on aime le ça parle un peu à un côté enfantin chez nous. Ça nous ramène à le plaisir qu'on a d'écouter de la musique puis d'en jouer.
Le côté ludique de tout ça aussi, là, c'était vraiment important. Là. De revenir à la source de l'enfant en nous. C'était clairement ça. Là. C'était d'y aller dans une naïveté totale. On essaie des choses. On s'est mis à crier, faire du sampling, du sampler. Puis on a tout réutilisé ça. Là. On est allé vraiment sur le flow. Là. We'll be right back.
Merci.
Allô, hey. Oh yeah, oh yeah.
Hey, salut Festival de Jazz, ça va? Yeah, content d'être là. On est Ping Pong Go. On est là avec vous pour une heure, yeah. La prochaine, Alain Bois.
c'était Dig, Dig, Diggers, premier épisode sur 3 consacré au Festival International de Jazz de Montréal 2023. Dans les prochains épisodes, vous retrouverez Bad Bad Not Good, Sungazer, Phelp et Jesse McCormack. Un grand merci à Laetitia et l'équipe de presse du festival pour avoir rendu ces émissions possibles. À Alexis Lucas, mon fixeur sur place, pour sa présence sans faille et tous ses bons plans. Retrouvez tous les épisodes en podcast sur le www.ferrarock.org. Une émission réalisée par Ben Vattar, RCV 99 FM, Radio Ferrarock à Lille.